Mais tantôt, je vais arriver dans la chaise, c'est ça. Je vais être incliné, puis il y a un stress qui, en tout cas pour moi, part jamais. Je vais voir le produit désinfectant. Ils vont désinfecter le site de stériliser le site de prélèvement. Et là, je vais voir l'aiguille. Et là, je vais commencer à... Oh non, je peux pas faire ça. Puis je m'en irai pas de la chaise, mais je vais capoter. Et on va me demander au moins 5 fois si on peut procéder au don. Okay. C'est ça qui arrive chaque fois.
C'est comme une tradition.
Oui, c'est ça. C'est...
Je vais probablement faire pareil.
Ouais.
Nous sommes vendredi, vers l'heure du souper, et on arrive tout juste à la Place Versailles, le centre commercial à l'est de Montréal. On s'en va pas magasiner, non, on s'en va donner du sang au centre Globule installé par Emma Québec. Et je dis que je vais faire comme Frédéric, qu'on vient juste d'entendre, parce que j'ai une phobie des aiguilles, une peur tout à fait contrôlable, mais complètement irrationnelle qui rend ça ben désagréable de me faire piquer. Frédéric est rendu à son 5e don de sang, et c'est pas pour rien qu'il nous traîne, quelques autres amis et moi, dans un centre Globule et non pas dans une simple collecte de sang.
Mon père doit avoir passé le 50 dons, quelque chose comme ça. Puis souvent, la pire chose que tu peux faire dans la vie, là, c'est aller donner une collecte de sang. Parce que dans une collecte de sang, c'est des bénévoles qui font tout. C'est pas du monde qui... C'est des bénévoles, mais pas nécessairement des bénévoles réguliers. Fait qu'ils font ça un peu n'importe comment. Puis des fois, l'endroit n'est pas tout à fait approprié. Moi, une des premières fois, j'ai donné du sang. C'était dans une collecte de sang dans le métro Berry-UQAM. Puis il faisait chaud, ça n'avait pas de bon sang. Puis on a une au moins genre 8 qui sont évanouis à cause de combinaison de la chaleur puis du manque de sang. Puis ça arrêtait pas de basculer les chaises partout. Et en plus, les gens sont pas expérimentés. Ils font mal quand ils te piquent. Non, si tu veux donner du sang, va dans un centre de don de sang. C'est comme le conseil par excellence qu'il m'a donné dans ma vie.
Et là, on est dans une clinique de don de sang. On est correct?
On est correct.
Bon, alors, donner du sang, mais dans un centre de don de sang. Conseil numéro 1. Conseil numéro 2.
Et c'est là, c'est le fun. On a un groupe, fait que c'est plus social.
L'activité de groupe.
Ouais.
On recommande ça à tous ceux qui ont la chienne comme moi d'y aller en groupe?
Oh, non, ça aide beaucoup. À un moment donné, tu sais, quand la panique te pogne, t'es comme, je suis pas seul. C'est correct. On y survit.
Pour un don?
Oui.
Est-ce que c'est la première fois?
Oui.
J'aurais besoin d'une pièce d'identité.
Vous écoutez dans le champ lexical l'émission qui tourne autour du mot, et cette semaine, le mot, c'est don. Et c'est pourquoi on commence par aller en faire un nous-mêmes, un don de sang. Et un don de sang, c'est un peu comme un rendez-vous chez le médecin, ça commence par une madame derrière un comptoir.
Est-ce que votre premier don a été effectué dans une autre province canadienne?
Non, c'est mon premier.
Vous êtes inscrit sur un don différent?
Non.
Alors, questionnaire justicier à compléter, vous répondez par oui ou non seulement. Si jamais il y a une question, vous n'êtes pas certain, passez par-dessus.
Okay.
L'infirmière n'ira pas avec vous.
Okay.
À l'arrière, vous touchez à rien. D'accord?
Super.
Quand tout ça est terminé, vous déposez votre dossier dans la pochette noire juste au côté du mur écrit.
Merci.
Puis, on va remplir un questionnaire. Vous sentez-vous bien aujourd'hui? Oui. Au cours des 3 derniers jours, avez-vous pris des médicaments ou des drogues autres que des vitamines ou des contraceptifs oraux? Non. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous pris cyclomène, danazol, proscar, propecia, isotrétinoïde, plein d'autres médicaments que je connais pas et que j'ai effectivement pas pris? Avez-vous eu une greffe, eu la jaunisse, l'hépatite, tatouage, piercing? Non, ça va. Dans le cadre de votre emploi actuel ou d'un ancien emploi, avez-vous déjà soigné ou manipulé des singes ou été en contact avec leur liquide corporel? Non, je suis journaliste.
L'humour se poursuit quand t'es dans le bureau avec l'infirmière qui te pose des questions live sur ta vie sexuelle et qui sont beaucoup plus poussées que n'importe quoi que t'as vu dans ce questionnaire-là.
Okay.
C'est très, très drôle.
Mais avant de passer devant la fameuse infirmière aux questions indiscrètes, il faut d'abord attendre son tour. Alors on jase. Pourquoi donner du sang?
Ben, premièrement, pour aider les gens d'une façon simple. Puis deuxièmement, parce que ça donne un genre de kick, là, donner du sang, c'est comme on se sent bien après, on a aidé, puis en plus, ben, c'est sûr qu'on manque un peu de sang au cerveau, fait que c'est toujours le fun.
Mais toi, en plus, t'es O positif?
Oui, O positif.
Fait que t'es en demande.
Oui, c'est ça.
T'es comme la Paul McCartney du don de sang.
Ben, presque, parce que t'sais, les O négatifs sont encore plus glamour que moi.
Okay, t'es la George Harrison.
Oui, c'est ça. Okay.
Et finalement, c'est mon tour devant l'infirmière et ses questions directes.
Avez-vous le sida ou avez-vous déjà eu un résultat positif à un test du VIH?
Non.
Avez-vous déjà eu la syphilis?
Non.
Depuis 1977, ça veut dire que c'est depuis toujours pour vous, hein?
Oui.
Avez-vous accepté de l'argent ou des drogues en échange d'une relation sexuelle?
Non.
Depuis 1977, avez-vous eu une relation sexuelle avec un homme, même une seule fois?
Non.
au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné de l'argent ou des drogues pour avoir une relation sexuelle?
Non.
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une relation sexuelle avec une personne qui a obtenu de l'argent ou des drogues en échange d'une relation sexuelle?
Non.
Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous injecté des stéroïdes anabolisants? Ça pourrait être hier, hein? Comme je dis des fois, ça n'a pas le temps de faire effet encore.
C'est ça. Hein?
Une fois qu'on a déterminé que ma vie est plate et que ma pression et mon taux de fer sont bons, je retourne attendre quelques minutes et j'apprends l'existence de ce qui s'appelle un don paraphérèse.
OK, le don paraphérèse, je vois ta face, tu te demandes ce que c'est. Je pense que tu vas peut-être préférer genre pas savoir c'est quoi. C'est, il te plug d'un bord pour prendre du sang, il te replug de l'autre bord, puis le sang rentre. Entre les deux, ils prennent juste les composants du sang qu'ils veulent. Fait que quand ton sang revient, il est beige, puis il est frette. Tu le sens rentrer dans ta veine beige, puis frette, et ça dure une heure et quelques.
Tu l'as déjà fait?
Mon père l'a déjà fait. C'est ça qu'il fait maintenant. Un petit peu comme un essai de G.I. Joe du don de sang. C'est toujours plus efficace, plus intense, toujours plus. J'imagine aussi c'est ça que tu fais quand t'es retraité. T'essayes de passer ton temps comme tu veux.
Je prends pas la pression. C'est pour faire un garrot.
Et là, c'est mon tour. On m'assoit dans une chaise et je fais tout ce que je peux pour ne pas voir qu'on va me rentrer une aiguille dans le bras droit. Parce que j'haïs vraiment ça, les aiguilles.
C'est comme je dis des fois, c'est mieux que moi je regarde l'autre programme.
L'infirmière qui a pas des aiguilles, qui aime mieux pas regarder. Je vais passer mon tour.
Fait que là, vous allez serrer le point comme tantôt. Ouais. Ça, je fais ça pour que ça fasse gonfler la lèvre. Puis là, ça va piquer. Mais si vous aimez mieux pas regarder, vous regardez pas.
Bon, pas regarder.
OK. C'est pas long. C'est fait.
Oui. Lâchez que j'ai une aiguille dans le bras.
En tout, la récolte de sang dure à peu près 5 minutes.
Martin va rester avec vous pour le reste du don.
Good.
Ben, merci pour le don.
Ben, merci de patience.
Pas de problème. Ça fait plaisir.
Bonjour. Ça va. À date, je pense que ça va.
Ouais,
super. Oh, je viens de regarder mon bras.
Non, mais vous voulez pas le regarder?
Non.
Merveille. Regardez bien ça.
Oh, que c'est gentil.
Hein?
Mon bras est maintenant recouvert de papier essuie-tout. Je peux recommencer à regarder à ma droite.
J'ai senti ça un don de rein. Je me suis dit que s'il fallait que je le fasse pour la semaine prochaine, j'étais peut-être mieux avec le sang.
Mais moi, je vous dirais, commencez avec le sang. Après ça, pour le rein,
ça.
On verra. Moi,
c'est ça.
Comment vous vous sentez?
Vous en pensez combien du monde sur une chaise dans une journée?
On essaie d'avoir 50-60 personnes par jour ici, puis à peu près la même chose de l'autre côté. Là.
De l'autre côté.
Mais aux plaquettes, il y a des dons différents qui se passent juste devant vous.
On prend combien de litres en tout de ça?
On prend un demi-litre.
Un demi-litre.
Oui. On prend à peu près un dixième de votre volume sanguin. On vous en laisse un petit peu pour retourner à la maison, évidemment. C'est terminé. Donc ça va toujours bien?
Ouais. Encore là.
On passe au bout le plus simple, on va tout enlever ça.
Et là, on attend une autre 5 minutes avant de se lever, au cas où on serait un petit peu trop étourdi.
Une mission accomplie.
C'est accompli, je pense.
Donc, après un don de sang, il y a des choses que vous devez faire et pas faire.
Okay.
Vous ne faites pas d'exercice physique ni de sport les 6 prochaines heures.
Okay.
Vous gardez la compresse pendant 6 heures. Avant de nous quitter, vous prenez une collation, au moins boire quelque chose. Si vous fumez, vous attendez une heure.
Good.
Vous sentez bien?
Oui.
Super.
C'est fait.
C'est à peu près ça.
Alors voilà, c'est ça, donner du sang. Je me suis pas senti faible, j'ai pas eu de problème, l'aiguille a pas été si pénible que ça, et tout le monde était super gentil. Bref, c'est presque plate, et je repars avec 2 tasses de sang en moins, puis c'est pas mal tout.
Je sais pas si tu le ressens déjà ou si ça va t'arriver après, mais il y a un moment donné après où tu te dis... J'ai donné du sang, genre, tu sais, c'était comme, hey, j'ai participé à quoi? J'ai été utile aujourd'hui à, plus, mettons, qu'à ma job, il y a pas vraiment quelqu'un qui va aller plus loin dans un traitement parce que j'ai fait ça. C'est vraiment le fun de donner du sang, juste parce qu'un moment donné, ça rentre. C'est bien agréable.
Toi qui vas recevoir ma poche de sang, ben sache que ça me fait vraiment plaisir. Vous écoutez dans le champ lexical l'émission qui est prête à donner de son propre corps pour vous parler du mot « don ».
De soleil?
Non, ça va, merci.
Le soleil est comme Dieu. Il donne sans rien recevoir.
C'est vrai. Mais c'est la base du don.
Ça, c'est Georges Bataille. Donner sans rien recevoir?
Oui.
Non, justement.
Non?
Mais non. Jacques T. Godbout. Moi, je suis l'auteur de plusieurs livres sur le don, dont l'esprit du don. Et le dernier, ce qui circule entre nous. Quand on donne, on reçoit généralement plus que ce qu'on donne. Peut-être pas dans l'immédiat, mais quand on observe... un des phénomènes sociaux de base du don, qui fait que le don est aussi fondamental et fait vivre les sociétés, c'est que quand on reçoit quelque chose sous la forme d'un don, on a envie de donner. Ça donne envie de donner. Les êtres humains sont faits comme ça, ils ont envie de donner quand ils reçoivent quelque chose sous la forme d'un don. Ça veut dire expérimentalement, tu sais, ton expérience personnelle...
C'est
le sentiment de reconnaissance, c'est le sentiment, puis on a envie de faire don à notre tour.
Mais est-ce que ça s'annule pas quand le don, on le fait pour recevoir quelque chose d'autre?
Est-ce qu'on le fait pour recevoir? Ça, là, c'est le problème de l'intention. C'est le problème de l'intention, c'est un problème, c'est sans fond. Il n'y a pas de réponse fondamentale à ça. Freud a dit que, hein, on ne connaît même pas nos intentions, c'est notre inconscient qui le dit. Alors, et que ce soit, si on le fait pour recevoir, et si c'est explicite, si c'est très clair vis-à-vis de la personne à qui on donne, ben notre don perd beaucoup de valeur. Parce que là, on touche à un des plus grands paradoxes du don, qu'on peut énoncer de la façon suivante. Le don est d'autant plus intéressant qu'il est désintéressé. Or, si on veut que le don soit intéressant, il faut qu'il soit désintéressé. Mais pour qu'il soit désintéressé, il ne faut pas qu'on le voie intéressant. Mais là, on a un paradoxe qui est sans solution. Le fait de recevoir un don déclenche quelque chose chez un être humain, à peu près dans toutes les sociétés, qui le porte à donner à son tour. Et ça, c'est ça qui est fondamentalement différent dans le don du marché. Le marché, on paye, on a, c'est fini, c'est réglé, on n'a plus rien à voir avec la personne. Et puis dans l'État, le gouvernement, c'est pareil. On a un droit, on réclame notre droit, puis on l'a reçu, et puis c'est tout, c'est fini. Le don, c'est le contraire. Je donne l'exemple, même dans la philanthropie, tout ça, ça, c'est s'il y a un don qu'on définit comme étant unilatéral, où on ne reçoit rien en retour. Hein? Mais pourtant, même dans ce domaine-là, les organismes de philanthropie, les œuvres, ils envoient leurs demandes de dons, là, surtout avant Noël, octobre, novembre. Là, on reçoit, allez-vous donner à cette œuvre-là extraordinaire, regardez tout ce qu'on a fait, puis tout ça, envoyez votre don. Et souvent, depuis 10-15 ans, ils nous envoient un petit cadeau avec ça. Ils envoient un autocollant avec notre nom. Je ne sais pas si tu as déjà reçu ça. Là. Ou moi, j'ai déjà reçu même 25 cents. Je pense que c'est pas l'UNESCO, mais tu sais, le truc pour les enfants, là. L'UNICEF. On recevait, je sais pas quoi, moins 10 cents. Alors, pourquoi ils font ça? C'est parce que le premier qui a fait ça, je pense, c'était les amputés de guerre. Mais les premiers qui ont fait ça, qui ont envoyé leur autocollant, ils ont vu, d'une année à l'autre, ils ont vu le nombre de dons doubler. Ça a doublé le nombre de dons.
Hein? Parce que les gens, ça
se juste le fait de recevoir quelque chose, ça te donne envie de donner. Et puis même, quand on reçoit quelque chose comme une carte, là, ben si on donne pas, là, on se sent mal. On se dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte-là? J'ai pas envie de donner, ça, c'est pas la cause cette année à qui je veux donner. Bon, j'ai le droit, tu sais. Mais on se sent mal avec ça, on a envie de la retourner. On a envie de donner quand on reçoit. C'est ça le phénomène fondamental qu'on met rarement en évidence quand on parle du don. Parce que quand on parle du don, on parle toujours juste du donneur, du geste de donner. Mais le don, c'est un phénomène bien plus compliqué que ça. Il y a donné, puis il y a celui qui reçoit. C'est une relation, le don. Et d'ailleurs, les gros problèmes du don, ils se posent pas chez le donneur, ils se posent chez celui qui reçoit. Parce que quand on compare le receveur de don par rapport à quand tu vas au marché, dans un commerce, ou même quand tu fais valoir tes droits vis-à-vis de l'État, tu as quelque chose à dire. Le receveur de don, il n'y a rien à dire, sauf merci. Il n'y a aucun droit, il n'y a rien. C'est pour ça que la philanthropie, ça peut être dangereux par rapport à un gouvernement. Actuellement, il y a une tendance, le don philanthropique augmente énormément. Puis il veut certains, oui, c'est bien jusqu'à un certain point. Ils veulent remplacer l'État. Hein? Souvent, les grands philanthropes, ils sont multimillionnaires, ils ont vu leur impôt baisser depuis 25 ans énormément. Et alors, ils compensent en disant « Oh, mais moi, je vais faire des dons philanthropiques. » Mais les dons philanthropiques, le gars, il est tout seul, ou la femme, bien entendu, parce qu'il y a de plus en plus de femmes riches, à définir quelle va être la cause qui va aider. Alors que quand c'est le gouvernement, quand c'est l'État, c'est dans une démocratie, ben c'est l'ensemble des citoyens, plus ou moins directement, mais quand même qui ont certains droits sur quels vont être les problèmes sociaux qui sont prioritaires et tout ça. Mais si c'est la philanthropie qui l'emporte, eh ben c'est une personne qui va décider que c'est telle cause. Pourquoi décide que c'est telle cause? Parce que sa femme a eu cette maladie-là ou pour des raisons très personnelles? Parce que le don, c'est toujours très personnel. C'est pas quelque chose qui a tendance à être universel.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Chantait Janis Joplin. Urbain Desbois, plus pragmatique, s'est dit que s'il voulait un char ou même une télécouleur, il serait peut-être mieux de faire appel à une force plus concrète et pas loin d'être plus omniprésente que le bon Dieu dans nos vies en adressant sa demande à Québécois. Si la compagnie de PKP lui donne ce qu'il demande, il promet de devenir camelot, de livrer la camelote, de rester accablé toute la sainte journée et il espère même se voir dans la télé en pleine entrevue avec Julie. La chanson « Au Québécois » figurait sur l'album « La gravité me pèse » paru chez Audiogramme et donc distribué par Select, une filiale de Québécois. Par contre, Urbain Desbois racontait en spectacle qu'une directive aurait circulé chez Archambault pour interdire de diffuser la chanson dans les magasins de la chaîne.
Oh yeah! « Québécois, veux-tu m'acheter un char? Tous mes amis sont loin, puis moi j'suis toujours dans l'autobus. En échange, si tu veux, je deviendrai camelot. Je livrerai ta camelotte aux quatre coins de la ville. Je regarderai pas l'heure, je ferai semblant d'y croire. Oh Québécois, veux-tu m'acheter un char? Tu le fais pour d'or, des pas beaux, des pas fins qui parlent et dans ton dos qui te lance des couteaux. Ah ouais donc Québécois, tu sais que je t'aime bien, tu peux l'écrire dans ton journal. Québécois, veux-tu m'acheter un char? Québécois, veux-tu m'acheter une TV en couleur? Je vais rester bien tranquille, je ferai pas de vagues. Je vais manger des pinottes, bien assis sur mon steak. Je serai accablé toute la sainte journée. Je regarderai mes chaînes, je vais watcher Vidétron. Je serai fidèle au poste. Oh Québécois, je veux une TV en couleur. Avec la chance, je pourrais me voir dedans, en train de chanter des chansons puis de parler des vraies affaires avec Julie Snyder. Il paraît qu'elle est bien fine, la pas fine. Oh Québécois, je veux une TV en couleur. Québécois, je veux une TV en couleur. Oh Québécois.
Jusqu'où va le don d'organe? Jusqu'où va le don de soi une fois la vie ayant quitté notre corps?
La personne que vous venez d'entendre, c'est le musicien Sonny Duval. C'est d'ailleurs le thème qu'il nous a fabriqué avec Marat Tremblay, que vous entendez par-dessus ma voix. Sonny, c'est un bon ami à moi et récemment, on s'est mis à discuter sur le don d'organes. Et on s'est trouvé à être pas tout à fait d'accord sur ce qu'on devrait faire avec nos organes après la mort. Donc, je l'ai invité à en parler avec moi, avec la subtile idée de peut-être le faire changer d'avis. Vous êtes toujours à l'écoute de Dans le champ lexical et on tourne encore autour du mot « don ». François, Sonny, tu vas?
Bonjour.
Bonjour. Je t'invite aujourd'hui parce que c'est ça notre émission, c'est sur le don. Puis t'es comme la plus grosse boule d'amour que je connaisse. c'est pour ça que ça m'a vraiment surpris quand t'étais comme « Ah non, moi je signe pas ma carte de don d'organes. Ça... » Raconte-moi pourquoi.
Ben, je tiens à spécifier que je suis pas contre le don d'organes, ça c'est clair. Hein. Mais non, c'est juste... En fait, dans ma vie, je me réserve le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Puis il est possible que je change d'avis par rapport au don d'organes. C'est juste, en fait, de la mauvaise information de ma part. Puis je regarde beaucoup de films, fait qu'il y a beaucoup de paranoïa. T'sais, je me dis, si je signe ma carte de don d'organes, est-ce que mon cœur va aller, mettons, dans un Frankenstein, puis il va servir à d'autres choses qu'aimer, mettons? Non, mais...
Mais ça serait quoi, là, mettons, la pire affaire là, que tu voudrais pas qu'on fasse avec ton corps?
Ben, j'aurais peur que mes organes servent comme cobayes, en façon de parler, pour, je sais pas, pour tester des produits ou des... Je sais pas, j'ai comme un genre... C'est vraiment juste de la paranoïa, parce qu'on... Peut-être que t'es sûrement mieux informé que moi, là, à savoir qu'est-ce qui arrive avec les organes une fois qu'on meurt, tu sais, ils prélèvent ce qu'ils ont besoin au cas où quelqu'un... Mais est-ce qu'ils peuvent... se servir de nos organes pour autre chose que la transplantation, peut-être, par exemple.
Peut-être, mais tu sais, dans l'optique où tu aurais une chance de sauver une vie.
Oui, ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord avec ça.
Ouais, mais
c'est pour ça qu'il va éventuellement la signer.
Mais là, t'as peur pour l'instant, ça tente.
Ouais, non, c'est juste de la méfiance. Me dit, qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'où ça va, le don d'organes? Est-ce qu'ils peuvent prendre... C'est pas tes yeux, je veux dire ton corps au complet, puis ça servait à d'autres choses que de la transplantation ou
genre mettre une main dans le formol puis
ouais par exemple ou se servir de mon corps pour le dissecter prendre la dissection vivante puis je sais pas
vivante, c'est mort. Ça
effectivement
mais c'est quoi ton rapport avec ton corps comme une fois que t'es mort qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que t'aimerais qu'il arrive
ben c'est juste qu'il m'appartient puis je sais pas j'aimerais pas ça que quelqu'un d'autre que ma famille ou ma femme puisse disposer de mon corps.
Mais est-ce que tu serais prêt à donner tes organes? Mettons que tu dis, OK, ben c'est ma femme qui décide pour moi. T'sais, mettons qui supervise après ça. Fait que...
Ouais, ça a du bon. Ça, c'est une très bonne idée.
Fait que tu serais prêt à comme signer un papier qui dit ça?
Oui.
OK.
Mais comme tel, comme cela, sur la carte, je trouve que c'est insuffisant. Qu'est-ce qui est écrit en arrière de la carte? Oui, je consens à ce qu'on prélève. Ouais. Mais tu peux choisir aussi les organes, me semble.
Ah oui?
Ça se peut-tu? Je suis dans le champ, me semble. Tu peux signer poumon, tu peux signer rein, cœur.
Y en a-tu un que tu veux vraiment pas?
Ben, mon cœur est parti à ma femme. Ça, c'est clair. Mais non, mais c'est sûr que... C'est sûr que je suis pour, complètement pour le fait de pouvoir sauver quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que je vois pas pourquoi, mais comme tu dis, je vais être mort, fait que il arrivera ce qui arrivera.
Alors, on vient-tu te faire comme un 180 puis changer un peu d'idée?
Oui, c'est sûr. Je suis toujours ouvert à changer d'idée, comme je disais, mais...
Yeah. Le monde qui ont des dons, ils peuvent les transmettre à d'autres s'ils sont pas du même sexe ni du même sang. Madame Chose, il y a toute transmission.
Combien est-ce qu'elle t'a vendu de Tupperware avec ça?
Elle m'en a pas vendu. Je veux dire, elle a pas essayé de m'en vendre. Je l'ai acheté, c'est pas pareil. C'est pas des farces, là. Il y a vraiment des dons.
As-tu le don d'enlever le mal de tête?
On écoute un extrait du film Crazy de Jean-Marc Vallée.
Je l'ai mangé, là, les gars, là. Répétez pas 20 fois.
Ouais, j'arrive.
Des dons. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Madame Chose?
J'ai pas le droit de le dire, qu'elle dit. Elle a dit à moi que si le bon Dieu m'avait donné des dons, il fallait que je m'en serve. Que je pourrais aider bien du monde. Sauver, moi.
OK, dis-y qu'il pense à lui. C'est ça. Bye. Prends ça à mon oncle Lucien, il s'est coupé à manger son steak.
Là. On va se mettre à appeler ici à chaque petit bobo, là. Je peux pas baisser ta musique.
Tout ce que j'avais à faire était de prononcer en silence les petites prières secrètes que Madame Chose m'avait confiées, qui consistaient non pas à demander, mais à ordonner à Dieu de procéder à la guérison.
N'oublie pas, tu peux pas te servir de tes dons dans un but personnel ou pour faire mal aux autres.
Dommage.
Allô?
Un autre fatigant qui vient de se couper en se rendant.
OK, je vais le dire. C'est ça, bye. Mon oncle Lucien a arrêté de saigner.
C'est ça, parfois, comme il y avait des gens qui arrêtaient puis qui comprenaient pas le concept puis qui nous demandaient s'ils pouvaient vraiment prendre des livres. Puis là, on leur disait oui, c'est à vous, c'est à nous. C'est comme quand vous avez des livres à laisser, même si là, présentement, vous en avez pas, mais tu sais, comme dans deux semaines, un mois, vous avez comme un livre que vous venez de lire puis vous allez le jeter, ben, jetez-le pas, mettez-le dans la bibliothèque pour les autres.
C'est ça que les gens croient pas que ça existe du stock gratuit.
Ouais, souvent, il y a comme. On mettait des trucs, puis là, souvent aussi, comme l'été, vu qu'il faisait plus chaud, on restait assis en avant, puis on mettait des trucs dehors, puis on regardait ça, puis il y avait des gens qui nous demandaient si c'était des blagues ou si c'était... Mais non, c'est... Prenez-le, il n'y a pas d'attrape, puis les gens regardaient alentour, puis essayaient de voir s'il n'y avait pas d'attrape, puis non, c'est ça, c'est comme... T'sais, en même temps, nous, tant qu'à l'acheter ou de quoi, ben on va s'amuser avec, puis on va faire plaisir à des gens.
Là, on est au 3422 Rushbrook, c'est ça? Rushbrook, ouais. Dans Verdun, donc on est pas loin du métro La Salle, entre La Salle puis de l'église. Vous êtes trois et vos noms c'est?
Lily Geoffroy, Steven Page puis Catherine Filion.
Et qu'est-ce que vous faites?
On donne du free. Est-ce que j'ai le droit de dire... On donne des free shit. On est free shit Verdun. Ça a commencé, on avait trouvé un pot de mayonnaise après les 1er juillet, après les déménagements, tout le monde. Puis comme vu qu'on a une cour avant, les gens sont plus porté à mettre leurs déchets dans notre cour que comme les jeter. Parce que, de toute façon, eux autres, ils s'en vont, fait que ils s'en foutent. Fait qu'ils mettent leurs déchets tout dans notre cour. Puis on avait un pot de mayonnaise qui était pas ouvert, il était encore scellé. Puis on s'est dit comme... Il y avait une chaise aussi. Fait qu'on a mis le pot de mayonnaise sur la chaise, puis on a écrit « free », puis on s'est dit comme... Ça va être drôle, il y a peut-être quelqu'un qui va partir avec. Parce qu'il faisait super chaud, il y a le gros soleil qui plombait dessus. Puis finalement, il y a quelqu'un qui est parti avec en... Je me rappelle plus le nombre d'heures que ça l'a pris. Puis là, on s'est dit comme... Bon, s'il y a quelqu'un qui peut partir avec un pot de mayonnaise qui était dans les vidanges, n'importe qui peut partir avec n'importe quoi. Fait qu'on s'est mis à fouiller, à essayer de trouver des affaires comme absurdes, puis n'importe quoi. Puis on donnait plein d'affaires, puis les gens ont commencé à trouver ça drôle, puis embarquer. Puis il y avait des gens qui nous arrêtaient pour parler avec nous. Puis là, tu sais, on a eu l'idée de la bibliothèque. Au départ, on a construit la bibliothèque, on a mis nos livres à nous, puis on a écrit dessus comme... bibliothèque commune, puis c'est ça. Les gens peuvent apporter des livres, puis prendre des livres. C'est comme la bibliothèque pour tout le monde.
Est-ce que les gens donnent autant qu'ils prennent?
Pour la bibliothèque, on a été vraiment surpris. À vrai dire, c'est ça. C'est difficile à voir qui prend puis qui laisse. Mais souvent, on a des sacs vraiment remplis de livres, puis c'est vraiment génial.
Mettons ton top 5 des affaires les plus fun que vous avez données.
Il y avait le pot de mayonnaise qui était vraiment le fun. J'avais fait un verre de limonade qui était comme handmade. On avait donné une piñata en forme de pénis. Ouais, on avait trouvé ça.
Ça a trouvé preneur?
Ouais, il y a quelqu'un, ça a pris comme 2 jours, je pense. Il y a quelqu'un qui est parti avec un HD DVD qui est comme, ça n'existe plus.
C'était des gros disques?
Non, c'était à l'époque quand le Blu-ray est arrivé. Il y avait HD DVD puis Blu-ray, puis c'était comme les. Puis là, tu peux rien faire avec ça, mais là, quelqu'un qui, comme c'est ça, là, j'étais dans la fenêtre, puis là, on parlait, puis il me disait, comme, je peux vraiment le prendre. Oh, ouais, si t'arrives à faire de quoi avec, c'est tant mieux, là, tu sais. Finalement, il l'a pris, puis. Qu'est-ce qu'on a?
La pâte à tarte.
Ouais, on a donné de la pâte à tarte récemment. On a déjà fait des tacos. On a fait des tacos, on les a donnés. Quelqu'un les a pris.
Faites aussi des projections de films.
Ouais, là, on a hâte que ça recommence. On espère qu'il va faire plus chaud. Mais là, on a reçu un projecteur, on s'est construit une toile.
Vous avez reçu un projecteur? Quelqu'un vous a
donné? Ouais, quelqu'un nous a donné un projecteur. Ben, quelqu'un s'est débarrassé d'un projecteur. Puis, c'est ça, on a un projecteur, on a construit une toile démontable qu'on va pouvoir monter. Puis c'est ça, d'habitude, l'été, mettons, pendant la semaine, on dit qu'il va y avoir... souvent, on fait comme des combats de films un peu, là, où est-ce que les gens viennent, puis on fait un vote à main levée, qui veut voir tel film ou tel film, il y a 2 films. Puis là, vu qu'on a un projecteur, c'est ça, on sort les divans, on sort des chaises, puis les gens viennent quand qu'ils veulent. On dit que ça commence à 9h, parce que d'habitude, vers 9h, il commence à faire noir. Puis les gens viennent... Ils peuvent partir quand ils veulent, ils sont pas obligés de venir non plus. Puis, tu sais, vu que c'est dans notre cour, ben, tu sais, on achète des chips, les gens arrivent avec un peu de bouffe d'un fois, puis, tu sais, on se partage des affaires, on boit de la bière, puis c'est juste le fun parce qu'on écoute un film au plein air dans une cour.
C'est le ciné-parc de Verdun.
Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Il y a juste comme. À un moment donné, on a été 16, je crois. On avait des amis là-dedans, mais il y a quand même des gens qui s'étaient arrêtés. Comme qui circulaient dans la rue puis qui sont venus comme en plein milieu du film ou souvent sur le trottoir il y a des gens qui sont debout qui font juste comme passer puis qui restent pendant comme 5-10 minutes à regarder puis à faire comme ah ouais c'est bon ce film.
Puis moi là, je vais te donner l'occasion de faire la plug de toute ton affaire. Vous avez donc un site web puis une page Facebook, plug moi ça.
FreeShitVerdun.com. Facebook, c'est FreeShitVerdun. Il est écrit comme FreeShitVerdun sur du carton. C'est vraiment simple. Sinon, il y a notre adresse de rue 3422 Rochebrook. Puis sinon, donner du free, c'est le fun.
Oui, partez-vous-en un dans Rosemont, là. Hein?
Ouais, dans Rosemont.
Mais dans Rosemont, ils n'ont pas ça.
Mais ils ont les Givebox.
Ouais, mais c'est ça, mais... la vie, c'est pas pareil.
Mais non, c'est pas pareil, parce que eux, c'est des trucs que les gens peuvent prendre des affaires, je pense qu'ils peuvent en donner aussi, mais ils font pas d'activités comme le ciné free ou comme les activités avec les gens. Ou... Nous autres, c'est un peu théâtral aussi, là, parce que parfois, on fait comme... C'est ça, là, quand les gens passent, là, si on donne des affaires, ben on va interagir avec eux autres, puis là, tu sais, on parle avec eux autres, c'est ça qui est le fun. Là. C'est pas juste une boîte, là. Tandis que là, ben, c'est free chez Verdun. Vous pouvez donner du free.
Je ne peux l'acheter, non, non, non. Je ne peux l'acheter, non. Je peux tout te donner, l'ami, si tu veux me le trouver. Je l'ai cherché souvent, l'ami, cet amour dont j'ai rêvé. Je donnerai tout, tout, mon ami, oui, tout pour me l'acheter. Je donnerai tout pour la part, le bonheur n'a pas de prix. Pour un grand amour sans histoire, je donnerai tout, oh oui. Tout mon ami, oh mon ami, crois-moi si je le trouve, je ne peux l'acheter, non. L'amour dont j'ai rêvé, je ne peux l'acheter, non. Non, 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 non.
C'est tout pour nous cette semaine. Merci d'avoir été là. Dans le champ lexical est une émission de Mathieu Charlebois, Joanie Larue, Chloé Barry, Christiane Campagna et Sarah Champagne. Pour avoir plus de renseignements sur nous, pour écouter des vieilles émissions, vous pouvez aller au www.danslechamplexical.com ou nous trouver sur Facebook ou nous trouver sur iTunes. La semaine prochaine, on tourne autour du mot « feu ». Et d'ici là, restez à l'écoute de CIBL. Et parce que dans le champ lexical, c'est l'émission qui donne sans compter, voici un petit bout qu'on n'a pas réussi à rentrer dans la version radio de l'émission.
Comme je suis persuadée que vous trouvez qu'on n'a vraiment pas assez parlé du pape et de la papauté ces derniers temps, je vais remettre le sujet sur le tapis. Ben oui, en vous parlant du faux le plus célèbre de l'histoire, c'est-à-dire la fausse donation de Constantin. Bon, 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 le plus célèbre. Je ne vous en voudrais pas si vous n'en aviez jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt le faux le plus célèbre des historiens, ce qui est une nuance importante. Alors, qu'est-ce que c'est que la fausse donation de Constantin? Voici pour vous mettre en contexte. Nous sommes en 754, on remonte loin, 8e siècle. Le pape, Étienne II, est comme pris en tenaille entre d'un côté les Lombards, qui sont dans le nord de l'Italie, et les Byzantins, qui occupent le sud de la péninsule italienne. Tous convoitent des territoires sur lesquels l'évêque de Rome s'emploie avec de pauvres moyens à exercer un peu d'autorité. Au point qu'Étienne II, donc le pape de l'époque, est allé chercher l'appui des rois des Francs, Pépin le Bref. Pépin le Bref, c'est le papa de Charlemagne. Donc, il va rencontrer le roi Pépin le Bref et il confère à lui et à ses fils le titre de protecteur désigné de Rome et de sa population. Ce qui fait que Pépin le Bref et par la suite Charlemagne vont pouvoir intervenir en Italie pour contribuer à l'édification d'un État pontifical qui ne disparaîtra qu'en 1870 et dont le Vatican d'aujourd'hui, oui, oui, le Vatican toujours, est un genre de vestige, finalement, de ces États pontificaux. Seulement le pape, pour pouvoir ainsi prétendre faire de la politique, a besoin d'une assise, d'un document prouvant qu'il a le droit de devenir un chef d'État. Et cette assise, il va aller le chercher dans un document qui, oh tiens, miraculeusement vient d'être retrouvé et qui va s'appeler « La donation de Constantin », un document dont on dit qu'il aurait été écrit à l'époque du pape Sylvestre Ier, qui était pape à l'époque de l'empereur Constantin, et par lequel Constantin, l'empereur, aurait donné au pape les Roms et les terres environnantes pour lui-même, Constantin, se retirer tranquille et fonder à Byzance la ville de Constantinople. Bon, je vous explique encore un peu parce que, oui, ça se peut que vous soyez perdu rendu ici. Pire romain est donc entre les mains de Constantin qui va se convertir au catholicisme. OK? Et effectivement, il va aller en Orient pour y régner avec ce qui va devenir l'Empire romain d'Orient, qui va devenir plus tard la zone géographique de l'Empire ottoman. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, restons avec Constantin. Il y a un pape à l'époque de Constantin qui n'a qu'un rôle religieux, donc Sylvestre Ier, et qui règne à Rome. Voilà. Alors, si vous me suivez bien, qu'est-ce qu'il y a dans la fausse donation de Constantin? Ça serait l'empereur qui dirait « Eh bien voilà, tu es un chef spirituel, mon cher Sylvestre, mais tu vas maintenant devenir aussi un chef politique puisque je te confie la souveraineté sur des terres. » Ce qui permet, on revient à Étienne II, là, celui du début, au 8e siècle, ce qui permet donc à Étienne II de dire « Ah! Ces terres-là, j'ai le droit de les protéger comme un chef d'État, j'ai le droit de faire appel à d'autres chefs d'État pour m'aider à les protéger, puisque j'ai le papier entre les mains de Constantin qui dit que oui, je peux être un chef politique et avoir des États indépendants à moi. » Que c'est pratique. Mais c'est un faux. Ben, vous vous en doutez bien parce qu'un papier qui apparaît si miraculeusement juste au bon moment... Mais un faux tellement pratique que même si, tout au cours des siècles qui ont suivi, on avait de sérieux doutes sur l'authenticité de la fausse donation, de la donation de Constantin, personne ne voulait ouvrir cette boîte de Pandore. Et c'est finalement un humaniste, Lorenzo Valla, qui a vécu au 15e siècle, qui va décortiquer le texte et qui va attester que ça ne peut être qu'un faux. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la façon dont il s'y prend pour dire que c'est un faux, c'est pas juste de dire « voilà un document arrivé de façon si opportune, voilà un papier qui ne servait qu'à des fins politiques, ça peut pas être un vrai ». Non, il va appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode historique. Voilà pourquoi c'est sûrement le faux le plus célèbre pour les historiens. Parce que nous, historiens, voyons là la naissance d'un travail qui est à la base même de notre discipline. Il va effectivement analyser le texte, le scruter, faire une analyse textuelle, identifier les impropriétés de langage, par exemple des termes, des néologismes qui ne pouvaient pas exister à l'époque prétendue d'écriture, des invraisemblances dans les mots, dans les termes utilisés. Bref, il va vraiment analyser le texte lui-même pour que le texte lui-même s'avoue faux. Et c'est avec lui qu'on va pouvoir savoir qu'on va pouvoir enfin s'assurer que non, ce texte-là n'existait pas. Ce qui ne va pas empêcher le pouvoir temporel des papes de continuer à s'exercer, puisque, effectivement, des États pontificaux, il y en a eu en Italie jusqu'à l'unification de l'Italie par Garibaldi à la fin du 19e siècle. On a laissé au pape et à la papauté que la petite zone du Vatican comme État encore indépendant, ce qu'il est toujours aujourd'hui. Donc, la fausse donation de Constantin nous permet plein de choses. Nous permet de voir que la fin justifie les moyens et que la politique peut facilement forger de grands faux quand ça sert ses vues. Nous montre que la méthode scientifique historique est née au 15e siècle par l'analyse de textes. Et nous montre l'origine des États pontificaux et ce pourquoi, encore aujourd'hui, le Vatican est un pays, une entité politique autonome. Mais là, je vous sens curieux maintenant que je vous ai raconté le contexte assez complexe et trouble de ce faux document. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui est écrit dans ce texte et puis pourquoi c'est une donation. Eh bien, je ne pourrais résister à l'envie de vous en lire quelques extraits. C'est pourquoi, afin que la suprématie pontificale ne perde de sa valeur, mais soit plus grande en dignité que les puissances terrestres, et soit revêtue par la puissance de la gloire, voici que « Tan palatium nostrum ut praelatum est, quamque Romae urbis et omnes Italia, sue occidentalium regionum provincias, loca et civitates, sae pefato beatissimo pontifici, patri nostro silvestrio universali papae, contradentes atque reliquentes eius, vel successorum ipsius pontificum potestati, et ditioni firma imperiali censura, per anc nostram divalem sacram et pragmaticum constitutum rescrit civil. Discernimus disponanda atque iuri sanctuae romanae ecclesiae concidimus per mandanda. Vous avez tout compris, hein? Je ne pouvais pas résister à l'envie de vous le lire en latin. Je vais vous le relire en français. Et c'est pourquoi, disions-nous, afin que la suprématie pontificale ne perde de sa valeur, mais soit plus grande en dignité que les puissances terrestres, et soit revêtue par la puissance de la gloire, voici que, tant notre palais, où se trouve ce prélat, que la ville de Rome et toutes les régions d'Italie, et les provinces des régions occidentales, localités et cités, au toujours bienheureux pontife, à notre Père Sylvestre, pape de l'univers, dépendante ou attenante d'elle, à l'autorité de ce pontife et de ses successeurs, et ce, par une décision ferme de l'autorité impériale, par notre impérial et saint pouvoir, nous décrétons que, à disposition et sous le droit de la Sainte Église romaine, nous concédons à perpétuité. Vous avez compris? Il donne la ville de Rome, ses alentours, au pape, avec une pleine souveraineté, à perpétuité. C'est ça, la fausse donation de Constantin.